You're with SBS Radio.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et comme chaque semaine, on va décrypter l'actualité dans le Pacifique. 7 jours d'actu dans le Pacifique avec Élodie Largenton. Bonjour Élodie.
Bonjour, bonjour à tous.
On commence avec le leader polynésien des indépendantistes qui a annoncé qu'une plainte a été déposée contre la France pour crime contre l'humanité en raison des essais nucléaires.
Nous le devons à toutes les personnes décédées des conséquences du colonialisme nucléaire, c'est ce qu'a déclaré Oscar Temaru, ancien président de la Polynésie française, à la tête du parti indépendantiste Tavini. Cette annonce a été faite au cours d'une réunion sur la Polynésie française organisée au sein d'une commission de l'ONU spécialisée dans les sujets de décolonisation. Oscar Temaru a expliqué que pour les indépendantistes, les essais nucléaires français ne sont que le résultat direct d'une colonisation. Contrairement au discours français, dit-il, nous n'avons pas accepté d'accueillir ces essais. Ils nous ont été imposés avec la menace directe de l'établissement d'une gouvernance militaire si nous refusions. Fin de citation. Il faut rappeler que 193 essais nucléaires ont été effectués en Polynésie française entre 1966 et 1996. L'actuel président du pays, l'autonomiste Édouard Fritsch, a également été entendu par cette commission de l'ONU cette semaine. La Polynésie française est un pays autonome qui se gouverne librement et démocratiquement, ne vit nullement dans une situation coloniale ni une situation d'oppression. C'est ce qu'il a déclaré donc à New York. Édouard Fritsch a aussi rappelé qu'il avait été largement réélu en mai face au parti indépendantiste. L'actualité en Polynésie, c'est aussi le procès du crash Air Moorea, un procès très attendu. Le crash d'un avion de la compagnie locale Air Moorea avait coûté la vie à 20 personnes en août 2007 en Polynésie française. 11 ans après le drame, le procès s'est ouvert lundi devant le tribunal correctionnel de Papeete. En tout, 137 proches des disparus se sont constitués partie civile pour ce procès labellisé sensible par la chancellerie. Sur le banc des prévenus, plusieurs cadres dirigeants d'Air Moorea, le directeur de l'aviation civile de l'époque, mais aussi la compagnie en tant que personne morale. Ils sont tous jugés pour homicide involontaire. Pour l'accusation, comme pour les parties civiles, les causes de l'accident sont claires. Le câble de gouverne du Twin Otter, mis à rude épreuve par la fréquence des vols, s'est rompu peu après le décollage. Mais pour les avocats de la défense, rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que la rupture du câble de gouverne soit bien à l'origine du drame. 3 semaines de débats ont été programmées pour tenter de faire la lumière sur ce dossier. Et bien, peu de politique, le vice-président du Rassemblement national, Louis Alliot, vient d'effectuer une visite en Polynésie. Il en a profité pour annoncer qu'un Polynésien serait présent sur les listes du parti frontiste aux élections européennes. Il pourrait s'agir d'Éric Minardi, qui est le président du parti local Tenati, Rassemblement National Polynésien.
La date du référendum sur l'indépendance de la Calédonie approche, la campagne s'intensifie et l'État rend public sa vision de l'après 4 novembre.
Que va-t-il se passer après le référendum du 4 novembre? Quelles seront les conséquences juridiques des résultats? Alors pour l'État, si le oui l'emporte, la Nouvelle-Calédonie deviendra un État pleinement souverain et indépendant. Elle devra poser les fondements de ce nouvel État et adopter sa propre constitution. Mais la France ne se retirera pas brutalement, précise le Haut Commissariat. Il y aura une période de transition, période durant laquelle l'État continuera à assurer la sécurité, l'ordre public, la monnaie et la justice. Si le non l'emporte, la France continuera d'accompagner la Nouvelle-Calédonie et la situation des institutions restera la même. Un deuxième puis un troisième référendum se tiendront à condition qu'un tiers des membres du Congrès en fasse la demande après les élections provinciales de 2019. Voilà donc pour la vision de l'État. Sur le terrain, le scrutin se prépare. On sait qu'en tout, 283 bureaux de vote seront répartis sur le territoire. 250 délégués venus de métropole veilleront au bon déroulement du scrutin. Et en prévision de ce référendum, la gendarmerie se renforce. Plus de 300 hommes supplémentaires sont venus gonfler les effectifs avec pour but de garantir la sincérité du scrutin et donc la sécurité des voies de circulation et des bureaux de vote pour que tous les électeurs puissent aller voter en toute tranquillité. Pour cela, il faut aussi avoir sa carte électorale spéciale. Les papiers sont arrivés dans les mairies calédoniennes. Et signalons aussi que la vente d'alcool sera interdite les 3 et 4 novembre, donc pendant 2 jours, et non pas pendant 2 à 3 semaines, comme le laissaient penser des rumeurs sur Internet. Et puis, sur le plan politique, les débats sont un peu plus tendus qu'auparavant, des tensions qui gagnent le Congrès, avec une polémique sur les couleurs affichées la nuit sur le bâtiment. Comme le rapporte La Première, depuis une dizaine de jours, la façade du Congrès s'illumine aux couleurs de la République, bleu, blanc, rouge. Les couleurs du drapeau indépendantiste ont été volontairement supprimées de l'éclairage nocturne. Décision du nouveau président du Congrès, Galliano. Une décision irresponsable, jugent les indépendantistes à moins d'un mois du référendum. Autre sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, l'entrée en vigueur de la TGC, la taxe générale à la consommation. 2 semaines après son entrée en vigueur, le gouvernement a décidé d'alléger la réglementation pour ce qui est de l'alcool consommé dans les restaurants, pour aussi le secteur automobile ou encore les produits surgelés. Un rendez-vous à noter, la 10e conférence des îles du Pacifique sur la conservation de la nature et des aires protégées se tiendra en avril 2020 en Nouvelle-Calédonie. C'est un événement qui a lieu tous les 5 ans. Il est chapeauté par le programme régional océanien pour l'environnement.
Direction Wallis et Futuna maintenant. Ça fait déjà 4 semaines qu'il y a une grève au sein de l'administration supérieure.
Les grévistes réclament l'application de la loi Sauvadet, loi qui permet à certains agents et sous certaines conditions d'accéder au statut de fonctionnaire de la fonction publique d'État. Pas de progrès dans les négociations pour le moment. D'après Wallis et Futuna La Première, les grévistes campent sur leur position et s'organisent même pour faire durer le piquet de grève. Ils ont reçu la visite cette semaine du député de l'archipel Sylvain Brial qui appuie leur démarche. Il demande au ministère des Outre-mer de s'engager à dialoguer avec les grévistes. Et ce n'est pas le seul mouvement qui touche l'archipel. Les pompiers sont toujours en grève, ils réclament des moyens supplémentaires. Et puis le syndicat FO a déposé un préavis de grève pour la garde territoriale. Ça concerne les employés des gendarmeries. Parmi les revendications, l'ouverture des postes de la police aux frontières. L'une des particularités de Wallis et Futuna, c'est qu'il y a des rois. Et bien l'un d'entre eux, Filippo Catoa, vient d'abdiquer. Il était à la tête du royaume de Halo à Futuna. Il évoque des raisons de santé. L'annonce a étonné son clan, selon La Première. Et puis Wallis et Futuna rejoint la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie au sein de l'Organisation touristique du Pacifique Sud. L'archipel pourra ainsi développer des coopérations nouvelles et mieux développer un tourisme adapté à ses spécificités. Quelques mots de sport à présent avec la belle performance de la surfeuse polynésienne Vahine Fiero. À tout juste 18 ans, elle découvre le circuit mondial de surf. Elle a obtenu une wildcard pour l'étape française du Tour qui se déroule à Osgore. Et elle a réussi l'exploit d'éliminer la numéro 5 mondiale Caroline Marx. Et puis en Va'a, autre prouesse des Polynésiens, la pirogue de l'équipe Shell de Tahiti a remporté la célèbre course Molokai Hoe qui se déroule à Hawaï. C'est sa 11e victoire dans cette épreuve. Et pour finir, retour en Calédonie où a été tournée la finale de l'émission australienne The Bachelor. Les téléspectateurs australiens ont donc pu apercevoir l'aéroport de la Tontuta, la plage de la baie des Tortues de Bouraille et puis l'hôtel Sheraton de Deva où la cérémonie finale a été filmée sur les bords de la piscine.
Merci Elodie d'avoir décrypté l'actu du Pacifique pour nous cette semaine.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.